Seigneur, dimanche après dimanche, nous venons te rendre un culte. Nous venons aussi écouter ta parole. Et parfois, tel thème vient par-dessus le précédent. Et combien nous avons besoin d'une révélation. Combien nous avons besoin d'un éclairage qui vient de ton esprit. Et ce matin, nous voulons écouter avec nos oreilles ouvertes, mais surtout avec notre cœur. Et surtout avec un esprit de révélation que nous te demandons. Et merci de visiter ton serviteur Jonathan dans le beau nom de Jésus. Et nous bénissons les enfants, les monitrices, moniteurs, aussi dans ces temps où ils apportent ta parole. Et c'est tout aussi important que cette parole apportée aux adultes par Jonathan maintenant. En Jésus. Amen.
Amen. Amen. Merci.
Voilà, bonjour. Je me suis escrimé à préparer un PowerPoint hier jusqu'à passer minuit et vous avez le rendu visuel ici à la hauteur de mes efforts. On se rend compte qu'on est très déterminé par les causes matérielles hein, de ce monde et Mac n'est pas compatible avec le PC ici. J'aurais pu le prévoir, vous me direz, mais voilà. On va devoir faire un exercice d'imagination. J'avais quelques images et puis surtout un exercice d'écoute parce que il y a plusieurs des versets qui étaient mis sur le PowerPoint. Je vais les lire à haute et intelligible voix et puis ça remplacera avantageusement cette présentation. Voilà pour la petite introduction et puis on va y aller. Roland a déjà exposé en bonne partie la thématique. Voilà comment. Être cohérent en tant que personne chrétienne qui avons répondu à l'appel de Jésus dans nos vies. Comment être cohérent dans notre présence dans le monde, dans un monde qui nous entoure avec parfois des valeurs différentes, parfois des valeurs similaires, mais pas formulées de la même façon que nous. On sent qu'il y a parfois un décalage. Et j'observe chez moi-même et chez un bon nombre de personnes une sorte de réaction ambiguë, en fait, quand on entend les appels de la parole de Dieu à rendre témoignage de notre espérance. C'est un mélange d'enthousiasme, d'engouement. On est réjoui, en fait, par ce qui nous habite. Et puis, c'est mêlé à une forme aussi d'attente craintive, une espèce d'inconnu ou un fardeau un peu lourd à porter, comme une sorte de responsabilité parfois culpabilisante si j'ai pas témoigné de la bonne façon. Donc c'est justement ça qu'on aimerait explorer aujourd'hui, en fait, quelle position cohérente pour l'Église et puis pour nous, en tant que personne individuelle. Pensons à notre entourage familial, notre entourage dans le voisinage, à notre entourage dans notre milieu professionnel ou dans nos études. Comment est-ce qu'on se situe, en fait, dans notre posture? Comment est-ce qu'on présente, ou est-ce qu'on le fait, tout court, présenter qu'on est chrétien. Et puis j'aimerais lire un texte où je pense que Paul, il expose d'une façon assez intéressante, par une série de questions, il expose justement cet aspect-là de notre responsabilité. C'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, Paul vient de présenter l'extraordinaire histoire qui est la nôtre, l'Évangile. Et voilà qu'il aborde en partie la question de notre réponse et de notre responsabilité. Alors, Romains 10, au verset 12 à 15. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, hein, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. Savoir que Paul écrit une lettre à une église divisée, entre des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne, et il leur dit, il y a un seul et même chemin. Il y a une seule et même histoire pour nous. C'est l'histoire de Jésus. Car en effet, au verset 13, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Toute personne, peu importe son arrière-plan. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? Car comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Cette série de questions presque rhétoriques induit cette idée de responsabilité, une idée de devoir. Et en introduction, donc, j'aimerais vous proposer cette phrase d'un pasteur américain qui s'appelle John Piper et qui a réfléchi à cette question-là de cohérence dans le monde. Et il présente la situation de la façon suivante. Quand vous êtes un homme affamé, un homme ou une femme, vous êtes une personne affamée parmi un peuple affamé, et que vous découvrez un banquet dans le désert, vous avez une dette envers tous. Vous êtes responsable, finalement, du salut des autres, en quelque sorte. Vous découvrez ce que tout le monde espère. Affamé, vous l'êtes, le monde autour de vous l'est, et vous découvrez ce banquet. Alors, trois questions. Avons-nous véritablement trouvé un trésor ? Avons-nous trouvé un banquet ? Est-ce qu'on l'a trouvé dans un désert ? Est-ce qu'il y a une famine autour de nous ? Et puis finalement, quelle est notre réponse ? Comment est-ce qu'on réagit face à cette double situation d'un banquet et d'un désert ? Alors, première question, avons-nous trouvé un banquet ? Et Paul le dit d'entrée, quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. S'il parle de la nécessité d'être sauvé, c'est que dans le Seigneur, il y a la solution, il y a l'idée d'une solution. Le nom de Jésus, c'est notre espoir. Et la Bible est parfaitement claire, en fait, en répondant à cette question. Jésus est le seul chemin. Il l'affirme lui-même dans son ministère sur terre. Il dit en Jean 6, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Là, il utilise déjà l'idée de satisfaire des besoins physiologiques. Répondre à une faim, de répondre à une soif. En se positionnant comme la seule réponse. Il est le seul qui nourrit. Fameux verset de Jean 14, 6, qui nous est parfois reproché en tant que chrétien d'être tellement exclusif. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul accès au Père. » Et Pierre, plus tard, qui sera l'apôtre qui commencera ce mouvement de l'Église à Jérusalem, rendra ce témoignage en disant qu'il n'y a qu'un, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et un peu plus tôt dans Romains, Paul poursuit en le présentant d'une autre façon. Romains 5, au verset 18, il dit « Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » On retrouve ce vocabulaire juridique qu'on a entendu dans l'introduction de Roland et dans le témoignage de Daniel. Il y a un seul problème. Il y a donc une seule solution. C'est peut-être pas évident, mais dans le monde qui est de plus en plus complexe, on tend à collaborer entre différents secteurs, différents domaines de professionnalisation, et puis on cherche à répondre à des problèmes très complexes de pauvreté dans le monde en abordant des solutions différentes, en disant il y a une solution qui touche à l'économie, il y a une solution qui touche au côté culturel, une solution qui touche au domaine de la justice sociale, et puis peut-être une solution qui touche au domaine du religieux. Oui, d'accord, bah alors là, on pourrait mobiliser le nom de Jésus. Mais en fait, la réponse biblique, c'est que Jésus est derrière chacune de ces solutions. Il n'y a qu'une seule réponse. Notre Dieu qui s'est révélé en Jésus. Il n'est pas juste l'une des solutions parmi l'offre globale, ça serait l'offre religieuse. Il répond à notre besoin de reconnaissance et d'appartenance en étant un ami, en étant le lien vers le Père. Il est justement le juge qui répond à notre soif de justice et d'équité. Il est le roi qui répond à notre besoin de stabilité et de paix. Il est le Dieu généreux des orphelins et des pauvres qui répond aux injustices sociales. Il est le Dieu qui guérit nos souffrances et nos maladies. dans son nom même, il y a la réponse. Jésus, Dieu, sauve. Donc oui, il est ce banquet, il est cette nourriture. Et c'est d'autant plus le cas que nous avons tous expérimenté cette faim. On a vraiment besoin du Seigneur Jésus, de tout ce qu'il a fait. C'est pour cela que nous avons fait appel au nom du Seigneur. Merci. Merci. Celui qui boira de cette eau aura encore soif, mais il y en a en réserve. Merci beaucoup. Non, mais j'en avais même prévu un, en fait, donc j'espère suffisamment. Mais voilà, est-ce que cette faim que l'on a ressentie, elle est partagée par le monde qui nous entoure? Est-ce que nos semblables, nos prochains, ils ressentent aussi ce besoin? Et là, on arrive à la deuxième question. Est-ce qu'il y a vraiment une famine dans notre pays? Ou alors c'est juste quelque chose qu'on a créé, on présente la réalité d'une certaine façon pour que Jésus apparaisse comme celui qui apporte cette nourriture? Est-ce que c'est une faim réelle? Ben, répondre à cette question, c'est à la fois évident puis à la fois ambigu. Parce que qu'est-ce que nous montre notre culture, notamment en 2019, en Suisse, en Occident? Si on l'observe, la première chose qui saute aux yeux, en tout cas de façon apparente, c'est l'absence de besoin. Peut-être que vous l'avez déjà expérimenté dans vos relations avec des non-croyants. Vous voyez qu'il n'y a pas de besoin. Sympa, merci, mais enfin, je m'en sors, quoi. Enfin, ouais. Et pour l'illustrer, là, ça aurait été peut-être nécessaire, mais il y a un psychologue dont on connaît tous le nom de famille, Maslow, on connaît un peu moins son prénom, il s'appelait Abraham. Voilà, Abraham Maslow, qui a théorisé les motivations de chaque être humain en termes de besoins, de réponses à des besoins. Vous avez peut-être entendu parler de cette pyramide, il y a 5 échelons qui sont autant d'étapes nécessaires pour pouvoir arriver à l'échelon supérieur. Le premier échelon, les besoins physiologiques, besoin de répondre, voilà, nos besoins de nourriture, de sommeil. Deuxième échelon, les besoins de sécurité, d'être stable, besoin ensuite d'appartenance, de reconnaissance, d'accomplissement de soi. Et puis si on compare la situation de notre culture en Occident à ces besoins, ces 5 échelons, on peut en toute légitimité dire qu'en apparence, on a pas mal répondu en fait à ces besoins. Et ouais, donc comment faire face à cela? Accès à l'éducation, accès aux soins, richesse matérielle, sécurité matérielle. Vous savez, j'ai des connaissances justement dans mon université, entre autres quand j'ai fait mes études, beaucoup partagées en fait sur cette vision du monde chrétienne. Et puis, j'avais toujours une oreille attentive, mais vraiment sous la forme de la curiosité polie et puis de l'intérêt, en particulier à l'université. On aime bien découvrir les autres façons de faire. Mais tant mieux si ça marche pour toi. Moi, je ne ressens pas le besoin. Et cette réalité-là se transforme même parfois en objection à l'évangile. On va peut-être entendre des théories qui disent « Mais oui, mais ça fonctionne dans les régions pauvres. Ça fonctionne quand l'évangile il est formulé en termes de prospérité. » Voilà, une personne dans la misère, elle entend que Dieu répond à ses besoins. Bah forcément, elle voit tout de suite, en fait, à quoi est-ce que ça pourrait correspondre. Par contre, en Suisse, ça marche pas. Et puis d'ailleurs, en fait, ça marche seulement quand vous essayez de créer le désert autour de nous. Il n'y a pas de désert en Suisse. Il n'y a pas de besoin. Alors vous devez peindre le diable sur la muraille, présenter les choses de façon catastrophique. Et puis là, enfin, la solution, elle paraît désirable. Mais franchement, soyez plus positifs. Bref, c'est une objection qui nous est opposée. Et pourtant, j'ai envie de vous dire que la famine, elle est bien réelle. Et avant même de se tourner vers ce que la Bible nous dit, je crois qu'il y a une réalité par-dessous les apparences. Et des besoins sont criants, des crises familiales, des dépressions, des burn-out en cascade, un taux de suicide, des souffrances qui sont vraiment réelles. Et même bibliquement, la réalité de ce que l'on a lu, Romains 5, ça concerne notre monde entier par un seul homme, par Adam. toute l'humanité a été marquée par cette famine, ce besoin de répondre à ce désir en nous. Alors pourquoi est-ce que s'il y a cette faim en chacun de nos semblables, c'est pas plus évident? Ce banquet-là, il n'est pas si évident que ça. En fait, pourquoi est-ce que les personnes, notre entourage ne voit pas en fait ce qui nous a satisfait? Et très rapidement, je pense qu'il y a un problème de discernement dont on est tous, par lequel on est tous concernés. Mais si l'on veut, le péché qui a concerné notre humanité tout entière a attaqué en premier la capacité à discerner la vérité. La première attaque de l'ennemi dans le récit de la Genèse, c'est non pas à l'encontre de Dieu ou de l'humanité, c'est à l'encontre de la vérité. Il a posé la question, est-ce que Dieu a vraiment dit? Et c'est ça qui marque cette condition humaine. On n'est plus capable de discerner véritablement ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai. Donc notre compréhension de nos besoins, elle a été distordue. Ça serait comparable à un enfant qui, parce qu'il a froid aux mains, veut toucher la plaque. Oui, ouais, d'accord, tu as froid aux mains, mais c'est peut-être pas la meilleure façon de te réchauffer les mains. Mais ce discernement-là, on l'a tous en quelque sorte perdu. Alors d'entendre quelqu'un qui dit « j'ai plus de besoin, j'ai pas de besoin », bah la Bible, elle dit « ouais, ok, c'est pas parce que tu mets la main sur la plaque que effectivement ton besoin de chaleur, il est satisfait ». Et d'ailleurs, Paul présente en fait son appel. Jésus l'a appelé de cette façon-là dans Actes 26. Jésus lui dit « je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie ». Je t'envoie leur ouvrir les yeux. Prendre pleinement conscience de notre besoin. Quand bien même les apparences nous disent le contraire. C'est pas créer le désert en disant attention. Non, c'est juste être lucide sur la réalité de notre condition. Parce que la conséquence, c'est que notre monde, notre culture crée toutes sortes d'autres chemins pour répondre à ce besoin. Le matérialisme, l'ésotérisme, le socialisme, enfin tous ces ismes qui sont autant de voies, maintenant c'est le véganisme, voilà, c'est des voies qui tentent de répondre à cette fin et puis ça donne l'apparence d'être bien, d'être en accord avec ce pourquoi on vit. Mais ce que l'histoire humaine aussi nous révèle, c'est que l'homme reste affamé et qu'il y a en lui ce besoin de relation en Dieu et que le seul capable de répondre à cette famine, c'est celui qui a dit « Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. » Donc est-ce qu'il y a un banquet? Oui, il y a Jésus. Il y a sa réponse multiforme pour toutes les cultures et tous les âges. Est-ce qu'il y a cette famine? Oui, j'en suis persuadé. Et quelle est notre réponse? Placée là, dans ce monde. Je répondrai premièrement à cette question en observant un peu le problème. Le problème justement qui parfois pousse à une sorte d'incohérence. Par rapport à ce double message que Jésus est le banquet et que ce monde est affamé, on commence par le monde affamé, on croit en fait parfois à cette histoire qui tourne autour de nous, on est influencé par notre culture, on croit vraiment que le monde dans lequel on vit n'a pas de besoin. On y croit au bout d'un moment. On tend à oublier en fait ce besoin de discernement et ce besoin réel que seul Jésus peut apporter. Et le piège pour l'Église, ce serait de tomber dans l'idée justement qu'on a juste une autre offre à apporter. J'entendais justement qu'un de ces ismes, ça peut être le christianisme. Il y a tout un panel d'offres, et puis les gens, en fonction de leur situation de vie, en fonction de leurs circonstances, en fonction de la saison dans laquelle ils sont, ils vont s'orienter à un moment donné vers le christianisme, prendre ce dont ils ont besoin et puis poursuivre leur chemin plus tard lorsqu'ils auront trouvé réponse à leurs besoins en cette saison de vie. Je crois que c'est pas une bonne façon d'observer la réalité. Mais cette histoire à laquelle on croit, ce monde qui n'a pas de besoin, ça fait de nous en fait des personnes un peu craintives, un peu sur la réserve. On a peur d'être intrusif. Alors là, c'est notre timidité culturelle hein, qui fait que la croyance c'est un tabou, puis on va pas questionner ces choses. Après tout, c'est de la responsabilité de chacun. Ce qui est vrai. On va pas se mettre à choisir pour les autres, absolument. Mais comme on se dit que c'est la responsabilité des autres, on a surtout pas envie d'en parler. Après tout, ils sont grands, matures, responsables. Ils choisiront bien à un moment donné. L'une ou l'autre offre. Pas de problème. En plus, on est en position minoritaire, alors on est très prompt à se disqualifier parce que on tend à confondre la vérité avec la majorité. Ce qui est, peut-être dû à la démocratie directe. Je sais pas, c'est une question comme ça ouverte. On a peur d'être intrusif. On a peur d'être arrogant aussi. Et c'est vrai, en fait, toute posture de vérité est pas toujours hyper confortable. On se dit, mais c'est qui celui-là pour me dire, attends, dire ce qui est vrai? Non, mais il se prend pour qui? Et puis, alors, du coup, on y croit. On se dit, mais il faut pas dramatiser. C'est vrai, le monde s'en sort quand même bien. Je vais pas me mettre à juger les décisions des autres. Apparemment, il s'en sort bien. C'est une formule, hein, qu'on a. Regardez, bonne situation, une carrière, il s'en sort bien. Et toutes ces choses sont vraies. On va pas commencer à condamner les choix de vie, c'est absolument pas ça. Mais on se dit, on commence à se dire, mais en fait, ils ont pas besoin de ce que j'ai à lui offrir. Il s'en est sorti d'une autre façon. Mais c'est quoi l'objectif qu'a Jésus en fait? C'est un plan de carrière pour nous. Ouais. Deuxième difficulté de croyance. Alors, premièrement, on ne croit pas forcément à un monde qui a vraiment un besoin. Et puis c'est possible qu'on ne voie pas parfaitement la beauté du banquet, peut-être. Est-ce que les autres solutions, finalement, elles ont l'air assez pertinentes aussi? Et si on voit la beauté de ce que Jésus nous offre, est-ce que ces autres solutions nous paraissent tout autant attrayantes? Est-ce qu'on aurait véritablement cette pensée-là si nous savions que Jésus est le seul espoir? Le seul espoir des nations. Et donc, le résultat, c'est que on attend, on est parfois dans ce silence gêné. On a une sorte d'engouement, d'envie, et puis, dans notre sens, on est un peu sur la défensive. Et le résultat, c'est que on attend que les personnes entendent parler du banquet par un autre moyen que celui que Dieu a choisi. Ou alors qu'elles touchent le fond, il faut qu'elles aient tout testé. Puis quand mon voisin aura vraiment, vraiment touché le fond, et je pourrais peut-être lui proposer ce repas. Mais je crois que cette attitude montre que nous espérons que les yeux s'ouvrent par un autre moyen que celui que Jésus a voulu, qui est celui de parler de lui. Et ça, c'est le dernier point, c'est la réponse cohérente. Qu'est-ce que Paul... Il dit, comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Ça nous viendrait pas à l'idée de préparer une fête de famille sans l'annoncer, sans publier la nouvelle, sans rendre public l'événement. Or, ce que Jésus a fait est un événement historique. Et comment espérer s'attendre à ce que le monde dans lequel on vit entende parler de cette nouvelle si on repousse la responsabilité sur d'autres, mais ils vont peut-être tomber sur un site internet ou alors peut-être qu'ils verront un verset une fois affiché dans la rue. Toutes ces choses sont vraies. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi une part de réponse à apporter en tant qu'église, en tant qu'individu? Se dire, peut-être que ces gens ont besoin d'entendre. Parler du banquet. Peut-être qu'ils ont, en fait, pas d'autre moyen d'arriver à cette révélation-là. Et ces questions, pour moi, mieux que tout autre passage, montrent la nécessité, en fait, de parler de Jésus. Et c'est évidemment impossible de déconnecter ça d'une réponse comportementale. On doit pouvoir refléter les conséquences de l'évangile dans notre vie. Mais il ne s'agit pas uniquement d'un sourire ou d'une attitude aimable. Je crois qu'il s'agit aussi d'une parole, d'un message, d'une annonce. Entendre parler de Jésus. Et pas juste voir les conséquences dans notre vie. Si j'ai découvert un banquet dans un désert, je suis débiteur. J'ai un devoir moral envers celui qui n'a pas encore entendu l'annonce. Et donc c'est ça, c'est cette responsabilité en fait qui est la nôtre. Et j'aimerais juste tout de suite dire en fait que ça doit absolument pas amener une quelconque dose ou forme de culpabilité ou un fardeau. C'est une responsabilité, je pense, mal assumée, parce que la conclusion de ce que Paul dit ici, c'est qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Ce sont des adjectifs positifs. C'est une action qui amène l'émerveillement. On le fait pas pour parler de la famine et terroriser et puis dire, mais regardez vos besoins, la condition humaine est terrible. On parle de la majestuosité du banquet. On parle de cette bonne nouvelle. On attire l'attention sur ce qui est digne d'être pris avec réjouissance. C'est quelque chose qui amène de la joie, vraiment. Et pensez à un événement extraordinaire qui vous arrive. Vous avez presque en vous ce besoin de l'annoncer aux personnes qui vous sont proches. C'est quelque chose qui vient parfaire votre joie, le fait de l'annoncer. Jésus s'est fait homme, il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Alors comment ne pas dire « regardez ». Regardez celui qui est incomparable à tout ce que ce monde peut vous offrir. La mesure de notre joie sera proportionnelle à notre aptitude à la partager. Partager ce festin, ce banquet. Quel triste repas de famille quand on le prend seul, mais quelle réjouissance de pouvoir le manger avec nos proches. En conclusion, j'aimerais laisser quelques questions. Premièrement, par rapport à notre dimension collective, en fait, en tant qu'Église, quelle réponse nous voulons avoir dans cette région? Là, très concrètement, on est ancré dans une petite bourgade que ce n'est, avec des villages avoisinants. Il y a un bassin de population, 15 000 personnes, disons. Comment faisons-nous concrètement pour publier l'annonce d'un banquet? Est-ce qu'il y a une stratégie pour rejoindre chaque foyer de notre région? Ou alors est-ce qu'on se dit, bon, ben, il y aura un autre moyen? Encore une fois, cette question et cette responsabilité ne doit pas amener de la culpabilité, de la crainte. Non, c'est une bonne nouvelle, ça a produit de la joie et de la réjouissance. Un deuxième aspect, en fait, la gestion de nos ressources, c'est peut-être une thématique un peu plus sensible, mais en général, la façon dont on a de nous préoccuper de nos ressources et de nos finances, de nos ressources en termes de temps, c'est un bon indicateur de nos préoccupations, simplement de nos priorités. Qu'est-ce qu'on fait de nos ressources? Et en tant qu'Église, en fait, combien consacrons-nous à la publication de cette nouvelle? Ici, ailleurs, au loin, dans le monde? Et puis finalement, personnellement, en fait, est-ce que cette idée-là du banquet nous réjouit? Est-ce qu'on a chaque jour cette envie de goûter à ce que Dieu nous offre? Est-ce que chaque jour on a envie de l'annoncer, de le partager? Et peut-être pour terminer sur une question un tout petit peu provocante, si on n'a pas cette envie de partager ce festin, est-ce qu'on en a véritablement fait l'expérience ? Est-ce qu'on en fait véritablement l'expérience ? Est-ce qu'on se rend compte à quel point ce festin est précieux ? Je nous laisse avec ces questions et je ne veux pas croire qu'il est de ma responsabilité d'apporter des réponses très pratiques. Voilà, maintenant au quotidien, on va se lever chaque matin puis prier pour une personne en particulier et puis la semaine prochaine, on va faire une tentative d'apprendre. Non, c'est pas ça. Je crois que chacun doit, dans le secret de son cœur, vraiment apporter ses questions à Dieu. Et le vivre. Alors je vais conclure en priant, et puis ainsi soit-il. Ouais, merci Seigneur pour la réalité de l'Évangile qui est vérité. Parole de vérité qui nous libère, et qui nous libère particulièrement de nos incapacités à discerner ce qui est bon, ce qui est juste. Pardonne-nous parfois pour cette façon vraiment de définir avant de t'avoir écouté ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est bon aussi pour les autres en fait. Sachant qu'on est souvent avec une poutre dans l'œil, alors notre faculté à discerner, à utiliser notre vision pour comprendre ce qui est juste et bon est parfois empêchée. Alors viens-nous en aide, Seigneur. Et donne-nous vraiment cette faculté de voir à quel point ce que tu nous offres est extraordinaire. Et que tu nous donnes ce privilège, ce n'est pas une responsabilité, ce n'est pas une corvée, c'est un privilège que d'être celui qui annonce, qui partage cette nouvelle. Ouais, si ce message, Seigneur, devait apporter une quelconque émotion négative ou une forme de culpabilité, Seigneur, je prie que tu puisses vraiment effacer toutes les paroles qui auraient pu provoquer ce type d'émotion. Seigneur, je crois que tu nous appelles à la joie et à la joie du partage et que notre joie sera proportionnelle à notre aptitude à la partager parmi nous et dans ce monde. Montre-nous vraiment comment aller plus loin avec toi, dans le nom de Jésus. Amen.